dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir.
C'est à la France que fut confiée l'organisation du 10e rallye international de camping.
La zone la plus touchée, c'est celle du camping.
Radio Camping Paris.
C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Vous êtes-vous déjà demandé d'où vous venait ce sentiment d'insatiabilité, ce désir permanent d'avoir plus, d'en avoir jamais assez, de chercher partout ce qui vous manque sans savoir où vous le trouverez? Oubliez Freud, la psychanalyse et les névroses refoulées, tout est dans cette formule répétée en boucle pendant votre enfance, attrapez-les tous. Et oui, ce soir on va parler Pokémon. Cette licence qui l'année dernière fêtait ses 20 ans, débarquée pour la première fois en 95, nous faisant découvrir un bestiaire d'étranges créatures, s'agrandissant de génération en génération pour le meilleur et pour le pire. Ne nous attardons pas sur les dernières créations hasardeuses qui voulaient nous faire croire qu'un lavabo flanqué d'une grosse bouche de Liputou pouvait être un Pokémon acceptable, et abordons plutôt le phénomène que nul ne peut ignorer ces derniers jours, je veux bien sûr parler de Pokémon Go. Alors aujourd'hui, il est difficile de ne pas savoir que ce jeu existe, mais de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, c'est tout simplement l'application qui vous permettra enfin de toucher du doigt le rêve de votre jeunesse, devenir dresseur de Pokémon. Pour ce faire, le jeu s'appuie sur deux principes. D'une part, celui de la réalité augmentée, qui lorsque vous croiserez l'une de ces bestioles, la fera apparaître sur votre écran, au beau milieu de votre vrai environnement, tout ça grâce à votre appareil photo. Alors oui, c'est déjà plutôt sympa, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car ce qui fait tout l'intérêt de ce jeu, c'est le concept de géolocalisation. Du coup, après l'avoir créé, vous allez pouvoir voir votre avatar se déplacer sur la map de votre smartphone, celle-ci correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Et c'est bien là que se trouve l'explication d'un tel engouement. Car c'est à vous de prendre la route et de partir à l'aventure afin d'explorer le vaste monde et de vivre la vie d'un vrai dresseur. C'est astucieux, ça fait rêver, mais ce n'est pas si étonnant que ça quand on considère que la start-up qui est derrière tout ça, Niantic, a été fondée par John Hank, celui-ci ayant participé à la mise en place de logiciels tels que Google Maps et Street View. Du coup, depuis son lancement, les anecdotes saugrenues ne manquent pas de fleurir sur la toile. Ça va du poste de police australien, identifié sur la map comme un Poké Center et obligé de poster un message sur Facebook demandant aux gens d'arrêter de pénétrer dans le commissariat pour trouver des Pokéballs, aux soldats américains mobilisés en Irak sur le front de Mossoul, tweetant Daesh pour qu'ils viennent l'affronter dans un combat de Pokémon. Bref, c'est du grand n'importe quoi comme on aime, et pourtant, l'appli n'est même pas censée être disponible en France. Rassurez-vous, c'est pas sorcier pour l'obtenir, mais attention, certains bugs peuvent survenir. Personnellement, j'ai téléchargé le jeu sur Android et mon signal GPS reste introuvable pour l'appli. Résultat, mon personnage tourne en rond et ressemble plus à une meuf bourrée, désorientée à Châtelet cherchant le bon arrêt de son octilien qu'à une dresseuse de Pokémon prête à conquérir le monde. Allez, encore un peu de patience donc, ça devrait sortir dans les prochains jours. Espérons seulement que les serveurs seront préparés à la déferlante de nouveaux dresseurs qui s'annoncent.
Radio Camping Paris. C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h sur le 93.9.
On continue cette belle émission et on va parler aujourd'hui de la Manufacture 111 et de son exposition Artwork. Pour nous la présenter, on reçoit Margot Aubry, l'une des responsables du lieu, et Antoine Bertrand, l'un des artistes dont les œuvres sont d'une certaine originalité puisque peintes au sabre, oui. Mais on aura le temps d'y revenir. Tout d'abord, bonjour Margot.
Bonjour.
Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et pour m'accompagner sur le plateau, Florence. Bonjour Florence.
Coucou.
Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce lieu qu'est la Manufacture, Margot?
Alors, la Manufacture 111, ça a ouvert l'année dernière. On a fêté nos 1 an début juillet. C'est un centre culturel pluridisciplinaire orienté sur les cultures urbaines. Donc, on parle avant tout de culture urbaine, aussi bien dans la musique, dans l'art plastique, dans les projections. Mais on essaye d'ouvrir un maximum les cultures urbaines à d'autres disciplines. Là, par exemple, avec l'exposition du moment, on parle de street art, mais au sens nouveau du terme, c'est-à-dire c'est des artistes qui viennent du milieu du street art, qui ont fait des œuvres dehors, mais qui montrent autre chose qu'un travail à l'aérosol, comme on avait l'habitude de voir au tout début du street art. Donc l'idée, voilà, c'est que c'est un lieu pluridisciplinaire, avec une galerie d'exposition, un bar-restaurant et une salle de spectacle, où on fait donc expo, concerts, projections, live painting, on fait des brunchs le dimanche, on fait des spectacles de danse, des spectacles d'humour. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir toute une variété de spectacles qui sont proposés pour que chacun y trouve un peu son compte.
D'accord. Et Florence ?
Oui, alors vous parlez sur votre site d'activisme culturel. Ça m'a un peu interpellée. Vous entendez quoi par ça ?
L'idée, c'est de proposer autre chose que ce qui se fait. Ce qui se fait, c'est très bien. Les musées, c'est chouette. Les salles de concert où on voit des groupes qui font des tournées internationales, c'est chouette aussi. Mais nous, on a envie de montrer autre chose. Surtout qu'on parle de culture urbaine. Les cultures urbaines, elles sont entourées de beaucoup de clichés, de beaucoup de préjugés, que ce soit le street art, que ce soit le hip-hop. Il y a beaucoup de préjugés autour de ça. Et nous, on a envie de montrer que c'est autre chose, qu'il y a une vraie démarche artistique derrière ça. Pour l'expo Artwork dont on va parler, Antoine le montrera très bien que c'est pas uniquement le street art qu'un travail à l'aérosol, loin de là. Pour la partie concert, on va accueillir des artistes qui viennent du milieu du hip-hop, mais qui ont toute une démarche artistique, avec des ateliers d'écriture, avec des mélanges qui sont entre le hip-hop et le jazz. Il y a toute une volonté comme ça de montrer que les cultures urbaines, c'est pas uniquement tous les préjugés auxquels elle est souvent associée.
Et là, dans ce cas-là, il y a donc 6 artistes qui sont présents dans cette exposition. Dans quel contexte est-ce qu'ils ont produit ces œuvres ? Comment vous les avez un petit peu reliés ensemble, je dirais ?
Alors, depuis qu'on a ouvert l'année dernière, on organise le jeudi, 2 jeudis par mois, des live paintings où on reçoit des artistes et entre 18 et 22 heures, ils font un mur à l'entrée de la manufacture. Soit les murs de l'entrée, soit les vitres du bar-restaurant. Et l'idée, c'est que sur la 30aine d'artistes qu'on a reçus, on en a choisi 6. C'est les 6 avec lesquels le courant est le... pas forcément le mieux passé, mais c'est ceux qui ont compris l'idée du lieu. Ce qu'on voulait mettre en avant, la philosophie qu'on voulait transmettre. Et du coup, ces 6-là, on les a reçus en résidence dans la galerie d'expo pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, ils ont fait les œuvres sur place. L'idée, c'est qu'il y ait un travail sur toile, mais aussi sur les murs, pour qu'ils investissent vraiment la galerie d'expo. Et du coup, les visiteurs, ils vont se balader d'univers en univers, puisque chaque artiste a fait donc un travail sur toile, mais sur les murs qui permettent d'avoir un vrai univers pour chacun. Et donc, ils ont été là 15 jours, certains un peu plus, certains un peu moins, mais l'idée, c'est qu'ils ont fait toutes les œuvres sur place.
Donc il va y avoir plusieurs univers, plusieurs supports. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs techniques aussi ?
Il y a plusieurs techniques, tout à fait. C'était l'idée de rassembler ces artistes-là qui ont des âges différents, qui ont des techniques différentes. Il y a à la fois un travail à l'aérosol, puisque le street art, ça vient de là quand même à la base, et c'était important de l'avoir à travers l'artiste Papamesque notamment. Mais il y a aussi tout un travail avec du collage, il y a un travail avec de la peinture au pinceau, il y a un travail au sabre, il y a un travail à la craie. L'idée, c'est vraiment, il y a du collage aussi, qui est vraiment toute une diversité de techniques qui sont rassemblées sous le terme street art chez nous, parce que ce sont des artistes qui font du street art, mais pas uniquement. Encore une fois, le street art, c'est plus uniquement de l'aérosol, mais c'est aussi toutes ces différentes techniques-là.
Mais le street art, il y avait aussi une dimension d'illégalité au départ, de vraiment faire des tags...
être dans la contestation un petit peu.
Ouais, complètement. Ouais. Et là, du coup, on voit avec JR, avec d'autres artistes qui sont rentrés un peu dans le circuit en étant exposés en galerie, qu'il y a vraiment deux axes. Est-ce qu'on assiste à une mutation du street art ? Comment vous envisagez ce paradoxe d'exposer à l'intérieur des œuvres ? Je m'adresse aussi à toi, du coup.
Je pense pas que ce soit un paradoxe. Je pense que le graffiti, à la base, est né dans la rue. Il était fait pour la rue. Il avait ses raisons et ses représentants. Je pense que le street art, c'est déjà différent. Le street art, c'est une volonté d'investir un endroit particulier et de le mettre plus ou moins en valeur ou de donner par ce lieu une importance à son œuvre. Je trouve que ce n'est pas forcément la bonne démarche. Tous les street artistes ne sont pas contestataires. Tous les street artistes ne sont pas là pour juste poser sur un mur. Même d'ailleurs, je pense que la plupart des premiers street artistes sont là pour mettre en avant un mur, pour remettre en avant un endroit qui n'était pas forcément fréquenté par les gens. Ça permet d'avoir des flux de population à des endroits un peu inattendus.
C'est vrai que si on veut parler un peu de la culture mainstream du street art, on pense tout de suite à Banksy et donc vraiment à ces messages, avec des messages politiques, un petit peu de contestation. Est-ce que ça s'est assagi ?
Je me vois très mal parler pour la communauté entière de street artistes, mais je pense que c'est comme tout art, si ça se développe et il y a différentes branches qui se forment. Il y a des branches esthétiques, il y a des branches contestataires, il y a des branches d'installation, de volume, justement, le fait de pouvoir investir un mur, de pouvoir investir la rue en tant que galerie, ça permet aussi un petit peu, au départ déjà, de se poser dessus, donc le graffiti. Ensuite, de repenser ça en se disant, tiens, comment est-ce que je peux poser différemment que mon pote ou que ce gars-là? Comment est-ce que je peux me démarquer artistiquement? Et du coup, quelle technique je peux utiliser? Quel support? Quel matériau? On a des choses en volume qui sont collées sur les murs, on a des moulages de céramique maintenant dans Paris, on a des œuvres en miroir, on a plein de choses qui sont justement la diversité de tout ça.
Vous pensez que c'est aussi un moyen, par exemple, de revaloriser l'espace urbain, c'est-à-dire des zones où il y a une certaine paupérisation, où certains murs sont, on peut le dire, assez dégueulasses à cause de la pollution, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que le street art peut être une sorte de réponse pour embellir la ville dans certains quartiers?
Ce qui a été fait dans le 13e arrondissement, je sais qu'ils essayent vachement de développer ça avec Bongo, avec plein de... Les fresques fleurissent un peu partout, donc je pense que oui, mais...
Je pense, moi, de base, que mettre de la couleur sur un mur, ça n'a jamais fait de mal à personne. Quand c'est bien fait, c'est encore plus agréable. On a vraiment comment dire... Il y a faire des fresques pour faire de la com, et il y a faire des fresques pour les gens qui sont dans des endroits qui n'ont pas forcément l'occasion d'avoir des peintures, d'avoir des grandes rues. D'ailleurs, la plus grande... Enfin, la rue des Pyrénées ou ces grandes rues-là qui sont connues pour ça sont pas dans les quartiers les plus fréquentés à la base par le tout galerie quoi.
On vous a déjà proposé justement de peindre un mur un endroit légalement, c'est-à-dire en disant allez-y, vous avez carte blanche.
Alors du coup là c'est très récent
en dehors de la manufacture sens parce que
oui.
Tu faisais déjà du coup dans les live painting.
Moi j'ai posé en graffiti quand j'étais très jeune, après j'ai complètement arrêté, j'ai fait plein d'autres choses, je suis revenu à la peinture il y a 6 ans. Enfin, je me suis vraiment d'ailleurs mis à la peinture, je suis parvenu. Là, je reviens pour le coup au street art parce que j'ai l'année dernière eu l'opportunité de participer à une fresque avec des graffeurs et je n'avais pas du tout l'intention de travailler l'aérosol parce qu'il y a tellement de gens plus forts que moi à l'aérosol que ça n'avait vraiment aucun intérêt. Donc, j'ai cherché pendant un an à créer des outils qui sont aujourd'hui nés et qui sont les sabres à peindre.
Oui, alors ça, on va y revenir. Voilà. C'est vrai que ça m'a beaucoup intrigué quand j'ai vu ça.
Du coup, de par cette technique qui vient d'être présentée à la Manufacture 111, qui est la première fois où j'expose cette technique au public, là, depuis, oui, j'ai des murs. Donc la semaine prochaine, j'ai un mur. Les semaines d'après, j'ai à peu près un mur toutes les semaines jusqu'à fin août, là.
Moi, j'ai juste une petite question pour clore ce sujet street art intérieur-extérieur. C'est du coup, tu te considères quand même encore un street artiste par la technique, par le fait que ce soit sur un mur, mais c'est pas dans la rue, là, c'est au
c'est
sein
vrai que street,
de...
ça pourrait, ça bah, pourrait porter
ouais,
à confusion.
Au départ, c'était plutôt dehors. Du coup, dans la Manufacture 111, ce que tu fais, ça reste pour toi du street art.
Ah, moi, je me considère pas comme un street artiste, je me considère comme un artiste. Et après, c'est les gens qui vont décider si oui ou non, je rentre plus dans ce courant-là ou pas. Ça m'amusera du coup de faire autre chose pour en sortir le plus vite possible, parce qu'on n'a pas du tout envie de se faire enfermer dans quoi que ce soit. Là, le but, c'est vraiment de... J'explore aussi le mur de rue parce que ça me permet de parler aux gens, parce que la peinture, c'est un métier très solitaire quand on est un atelier seul. Et ça me permet de voir les enfants, leurs réactions. Moi qui peins pas mal d'animaux, du coup, c'est assez drôle. Il y a une interaction sociale qui est complètement unique, en fait, qui va vraiment que avec l'art de rue, au-delà du street art, de tout ce qu'on fait dans la rue, en fait, puisqu'on le fait pour les gens. Ces murs-là ne sont pas à vendre, ne sont pas payés, ils sont juste pour le plaisir de faire et puis pour le plaisir de voir les retours des personnes, en fait.
Le fait d'avoir fait cette expo, comme disait Antoine, c'est de montrer aussi que les street artists ne sont pas que des street artists, sont aussi des artistes, avant tout. L'idée, c'était pas d'amener le street art en galerie, ce qui est pas mal décrié, ce que je peux comprendre, mais c'était de montrer que, ok, dans les live paintings, on choisit... des artistes avec une tendance street art parce que c'est notre cœur, parce que c'est ce qui nous plaît, parce que c'est ce qu'on a envie de mettre en avant. Mais l'idée de l'expo, c'est de montrer qu'il y a toute une multitude de techniques, toute une multitude d'œuvres qui sont faites pour montrer que ce sont des artistes avant tout et qu'il n'y a pas cette étiquette street artiste qui est là parce qu'ils font des murs et parce que c'est chouette, mais que ce sont avant tout des artistes. C'était vraiment l'idée.
Pardon, merci Margot. On se retrouve tout de suite après une courte pause musicale.
This is not my thing. This music is tired. I'm sorry. He's gonna have to play something else. Let me go talk to the DJ. Well, I'm out of here.
Vous écoutiez Human de Birdcage. Merci d'écouter Radio Campus.
Radio Camping Paris.
Et on retrouve la manufacture 111 et Antoine, l'un des artistes exposants. Florence, tu avais une question, je crois, avant d'attaquer les techniciens.
Oui, oui. En fait, je voulais juste revenir sur ce que vous faites du coup pour ouvrir, enfin, notamment dans l'exposition Artwork. Comment vous faites vis-à-vis du public pour faire de l'activisme culturel, pour ramener des gens un petit peu? Est-ce que vous avez des activités programmées?
On a toute une démarche, depuis notre ouverture d'ailleurs, on a toute une démarche auprès des associations, auprès des écoles, auprès des MJC, des groupes. On a cette volonté d'ouvrir au maximum l'espace au public qui n'ont pas forcément l'habitude de venir dans des endroits culturels. On essaye de... Déjà, on est sur un tarif qui est bas, qui est 3€ pour l'exposition. Ou ça pour auprès du grand public, même si j'aime pas trop l'appeler comme ça, mais que le prix soit pas un frein pour venir. Et puis pour tous les publics qui ont moins l'habitude, voilà, on développe auprès des associations des partenariats où on met en place des visites guidées, où on accueille des petits groupes pour ouvrir un maximum la galerie à un maximum de monde. Voilà, on est port de Vincennes, on est dans un quartier où culturellement il n'y a pas grand chose, voire même rien. Donc le fait qu'on soit là, il y a une volonté de voilà que les gens qui passent, ils ouvrent la porte, ils rentrent. Les live paintings le jeudi soir, c'est en entrée libre. C'est aussi dans cette volonté-là que les gens passent, boivent un verre ou pas, voient l'artiste travailler. Et ça fait déjà un premier pas vers la culture et vers une démarche de découverte d'art au sens large.
D'accord. Alors moi, je voulais revenir un petit peu sur vous, Antoine, et votre technique. J'ai vu que vous aviez commencé un petit peu avec la bande dessinée. Là, on a appris que vous travailliez au sabre. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
beaucoup de choses. À la base, de toute façon, je voulais faire du dessin, ça c'était sûr, notamment de la bande dessinée. J'ai fait mes études à Saint-Luc, en spécialisation BD. Et après, j'ai beaucoup travaillé dans l'animation pour relever mon niveau de dessin, parce que j'avais plus appris la narration, la sémiologie, la philo, pour raconter des histoires, être un vrai auteur. Et de fil en aiguille, la technique plastique a pris un petit peu le dessus, et j'ai décidé de quitter l'animation pour me concentrer intégralement à la peinture, après avoir voyagé au Japon et aussi en Afrique. Ce sont deux voyages très importants, parce qu'en fait, ce sont deux voyages qui sont un petit peu autour de l'outil. Parce qu'en Afrique, j'avais prévu de faire des croquis et en fait, j'avais mis de l'encre de tag dans mon sac, explosé dans l'avion. Donc, je n'avais plus rien du tout en arrivant.
La galère.
La galère. Puis bon, un petit peu, comment on va faire? Il ne me restait que des feuilles. Donc, j'ai ramassé des os de chameau que j'ai trempé un peu dans l'encre qui restait. Et j'ai peint pas mal de croquis.
C'était vraiment
Puis c'était un petit peu, qu'est-ce qu'un pinceau? Qu'est-ce qu'un outil? Avec quoi on peut peindre? J'ai pas forcément besoin de poils, de stylos. Je vais regarder ce que je peux faire avec ce que j'ai sous la main. Donc, du coup, ça m'a beaucoup amusé. Et puis, ça a un rendu un petit peu aléatoire. Donc, c'est quelque chose qui a sa grande importance sur la suite, l'aléatoire. Et après, le Japon, c'est un pays justement dans lequel j'ai découvert le culte de l'outil. Donc vraiment, les gens qui fabriquent leurs outils pour vraiment toutes les tâches les plus minutieuses, les plus précises de n'importe quel corps de métier, et notamment dans l'artisanat. Donc tout ça, c'est un petit peu imbriqué avec les années. Et j'ai travaillé le couteau à peindre en 2014 pour une exposition qui a assez bien marché. Et je me suis retrouvé quand même avec l'outil qui est assez limité parce qu'il était trop petit. Donc si je voulais faire justement des murs et revenir un petit peu à ces premiers kiffs de poser dans la rue, il me fallait des grands couteaux. Mais ça n'existe pas. Nulle part.
Pourquoi ne pas le fabriquer alors?
Voilà, donc pourquoi pas le fabriquer?
Alors pas avec des os, pourquoi ne pas fabriquer son propre sabre, hein?
C'est ça, donc il y a eu plusieurs prototypes, des très lourds qui faisaient des crampes aux bras, des métaux qui n'allaient pas, qui s'aiguisaient, avec lesquels on se coupait, il y a eu plein de choses. Bon, un jour je raconterai ça peut-être, mais c'est assez drôle. Et au bout d'un an, on a mis vraiment au point un proto en aluminium, en buis et en pain, en fait, quand j'ai fabriqué avec mon père. Parce que c'est un outil, c'est assez intime. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on conserve avec le temps, qu'on transmet potentiellement. Et ils sont nés donc ces grandes lames à peindre que je suis le seul, je crois, à utiliser.
C'est vrai que Margot m'avait envoyé une vidéo de vous en train de peindre. J'étais assez impressionnée parce que j'avais l'impression qu'il y avait déjà un croquis, je dirais, sur la toile. Et après, c'est avec beaucoup de précision que vous arrivez. Comment ça vous vous avez réussi à maîtriser cette technique à ce point-là. C'est vraiment ça ? C'est un croquis et par-dessus,
ouais,
on vise ?
Oui, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu du tir à l'arc. C'est un peu plein de choses, en fait. C'est un peu comme du fouet. Le but, c'est justement de travailler sur un dessin qui est académiquement très, très bon, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'erreurs de proportion, d'équilibre, de composition. Et de justement, avec le sabre, aller déconstruire tout ce qui est trop bon. Aller casser tout ça.
Moi, ça m'a... Quand j'ai vu la vidéo où tu étais en train de faire le dessin, ça m'a fait penser au dripping de Pollock. Et je ne sais pas si ça a été une influence pour toi ou pas du tout, mais c'était... Enfin, ça m'a vraiment
fait penser
à ça.
Bah, le rendu, c'est sûr qu'il fait énormément penser au dripping, parce que de toute façon, c'est de la peinture qui coule sur un support.
C'est ça, parce que le dripping, pardon, pour les auditeurs, c'est... En fait, Jackson Pollock, il faisait couler la peinture directement sur...
Avec des tournevis, avec n'importe quel...
Ceci dit, votre œuvre est beaucoup plus figurative.
Oui. Moi, je pense que déjà, je suis pas assez mûr pour partir dans l'abstraction que Pollock fait. C'est pas qu'elle m'intéresse pas, c'est que voilà. Si elle vient, elle prendra le temps de venir. Je vais pas aller dans l'abstraction alors que je l'ai pas encore construit. Ça sert à rien de déconstruire tout de suite. Là, le but, c'est vraiment de construire le mieux possible en dessin et que par la peinture, on amène quelque chose d'aléatoire. Par la peinture, on amène de la vie, on amène de la vitalité.
Justement, cette vitalité, rien qu'au niveau de la gestuelle, il y a une certaine, on va dire, dynamisme, mais on peut plutôt parler de violence quand même.
Oui.
Je crois que votre série s'appelle même Rage.
La série s'appelle Rage, oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, justement, est-ce qu'il y a une démarche personnelle derrière ça ? Est-ce que c'était une volonté ?
Oui, oui, c'est une vraie volonté. C'est suite, en fait, à une affaire personnelle où je suis tombé malade l'année dernière, pendant un an et demi, et où je me suis retrouvé dans l'incapacité de peindre. Comme ce que je faisais d'habitude. Donc c'est là où j'ai cherché un nouvel outil. Et c'est là où, bizarrement, dans un état de faiblesse corporelle, j'ai trouvé l'outil qui était le plus violent physiquement. Donc ça m'a permis aussi d'extraire un petit peu toute cette frustration, parce que c'est quelque chose, je pense que tout le monde le sait, la maladie est quelque chose de très frustrant quand on ne peut pas s'en sortir. Et ça m'a permis un petit peu d'évacuer ça.
D'accord, Florence.
Et si on repart un peu sur la technique, comment ça se fait, on s'est posé la question avec Béatrix, comment ça se fait que donc tu fais le dessin en dessous, et après en projetant, c'est quand même hyper précis, ça tombe la peinture sur les traits.
Ouais.
Ça a été combien de temps d'entraînement ?
Ça m'a pris une bonne année d'entraînement, régulière, tous les jours.
Puis surtout sans professeur, du coup, vu que c'était, il fallait tout redécouvrir.
Il y avait, oui, puis il n'y avait pas de nécessité d'avoir un professeur, parce que là, c'était de la découverte personnelle, puis c'était une démarche personnelle. Enfin, il n'y avait pas besoin de mentor là-dessus. Il y avait juste besoin d'échecs. Il y avait juste besoin de rater énormément de fois pour arriver à ce que je voulais. Et surtout, pour arriver à m'adapter à ce que je ne veux pas. Parce que oui, il y a en effet énormément de traits qui tombent juste, heureusement pour moi, et l'entraînement, mais il y en a aussi qui ne tombent pas exactement où je veux. Et du coup, l'intérêt de ça, c'est de s'adapter à ces traits, parce que je ne peux pas les enlever, je ne peux pas les effacer. Toutes les toiles, tous les murs sont faits d'une manière à ce qu'il n'y ait pas de blanc qui vienne recouvrir le noir parce qu'il a été mal posé. Le noir est là et le noir reste.
Et alors, tu disais que pour toi, c'est plus dur de passer à l'abstrait que de faire du figuratif ?
Oui, parce que moi, je suis passionné de technique en peinture. Je travaille aussi la faïence, je travaille la feuille d'or, je travaille le soumier, qui est la peinture traditionnelle à l'encre asiatique, enfin, avec le nom japonais, le nyonga, qui est la peinture traditionnelle aux pigments japonaises, la peinture sur soie. Et toutes les techniques me passionnent, jusqu'au moment où la technique n'est là que pour servir la technique. Donc, on n'est que dans l'esthétique, on n'est que dans le tour de force, la dextérité. Ça, c'est sympa, mais c'est pas pour moi la peinture. La peinture, c'est personnel, c'est vivant, c'est évolutif. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une continuité. Donc, cette technique-là des sabres, elle me permet justement d'aller pousser un petit peu cette démarche très personnelle. Je ne peux pas juste m'arrêter à la technique avec les sabres, parce que de toute façon, ça ne sera jamais exactement comme ce que je voudrais si je voulais l'entrée parfaite. Donc, je m'adapte à ça. Et j'essaye de faire ressortir surtout l'émotion. Une fois que l'émotion, là c'est une collection sur les regards animaux, une fois que le regard est là, qui vous prend, que vous le sentez, qu'il y a une espèce d'absorption par la toile, surtout par l'effet du noir et du blanc.
C'est uniquement noir et blanc ?
Là, cette collection, oui.
D'accord.
Après, il y aura peut-être des évolutions, mais c'est ce que je disais, c'est... aller mettre de la couleur, oui, ça serait très joli, mais c'est pas la démarche, c'est pas ce pourquoi je l'ai fait. Cette technique, elle est pas là pour être jolie, elle est pas là pour être conciliante, elle est pas là justement pour que tout le monde l'aime. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter un regard de certaines pièces qui sont à artwork, qui me l'ont dit, en disant j'adore, mais je peux pas, c'est trop violent.
Mais après, c'est l'art, l'objectif, c'est quand même de faire réagir les gens, voilà. C'est surtout ne pas les laisser indifférents devant quelque chose.
Exactement.
Et donc, non, c'était pas ça, ok. Oui, ce que vous disiez, c'était qu'on était sur des portraits, des visages d'animaux, c'est ça ? C'est exclusivement, ça va être exclusivement ça, la série ?
La série, pour l'instant, elle est pré-bouclée. Donc, par rapport à l'exposition, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Et on m'a surtout laissé faire tout ce que je voulais faire. Et ça, c'était chouette. Et merci à la manufacture. Parce qu'elle a 3 semaines en résidence avec la possibilité de tout peindre, les murs, les vitres. Ça, c'est absolument génial. Et ça permet la naissance de ces œuvres-là aussi.
Je confirme, il en a mis partout.
C'était dégueulasse.
Ça fait un peu peur au début, mais bon, après, c'est intéressant. Et puis, c'est vrai que ça s'ancre dans le contexte.
Et du coup, c'est une exposition collective, donc vous êtes 6. Mm-hmm. Comment ça s'est passé avec les autres ? Est-ce que vous êtes un peu influencé ? Vous avez été chacun de votre côté sans vraiment regarder ce que faisait l'autre ?
Bah, ça dépendait un petit peu aussi des disponibilités des gens, parce qu'il y a des gens qui travaillent à côté, il y a des gens qui n'étaient pas forcément là aux mêmes horaires. La majorité des personnes ont quand même été là ensemble, on s'est souvent croisés. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Papa Mesque et avec Claire, on avait à peu près les mêmes horaires de boulot. Brice aussi était là, donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait dans le sens où on voulait un petit peu tester les techniques des autres, mais on avait quand même tous l'envie de faire plein de choses. Donc on a réussi à boucler ce qu'on voulait tous faire, c'était très bien. Maintenant, ça, évidemment, on a tous envie de tester les sabres. Donc, je sais que mes collègues, je vous rassure, on se fera ce kiff-là.
Vous allez devenir sensei
Je ne sais pas si devenir sensei, mais peut-être que oui, j'aurai des disciples du sabre. Ça me ferait bien rire.
L'idée de la résidence, c'est vraiment que les artistes qu'on accueille se rencontrent et travaillent ensemble. En fin d'année dernière, on avait fait une exposition où on avait reçu 2 calligraphes marocains qui avaient travaillé avec 2 street artistes nantais. Et pareil, ils avaient été en résidence pendant 15 jours, tous les 4. Et chacun avait pu... Enfin, les calligraphes marocains avaient découvert le travail à l'aérosol des street artistes nantais. Les street artistes nantais avaient découvert tout le travail à l'encre, au marouflage des calligraphes marocains. Donc il y a l'idée dans les résidences que les artistes qui ne se connaissent pas et qui n'ont jamais travaillé ensemble se découvrent, eux, découvrent d'autres cultures, découvrent d'autres techniques. Il y a aussi toute cette démarche-là qu'on a envie de mettre en avant et qu'on a envie de montrer dans les expos.
Et au cours de ces live paintings, justement, ça peut paraître un peu bête comme question, mais est-ce que vous êtes ouvert H24 pour les artistes ? C'est-à-dire, est-ce que l'artiste peut vraiment passer 3 jours dans la manufacture, absorbé par son travail, ou est-ce que vous fermiez de temps en temps l'établissement ?
Alors, les live paintings, c'est le jeudi entre 18 et 22 heures.
Ouais.
Là, le travail de résidence pour les expos, il reste...
On est resté toute la nuit.
Voilà. le lieu est à eux. Ils l'investissent comme ils veulent, aussi longtemps qu'ils le veulent, de la manière dont ils le veulent. Voilà, c'est la galerie d'exposition devient leur atelier pendant 15 jours. Ils y font ce qu'ils veulent. Plus ils y restent, plus ils s'approprient l'endroit. Il y a des artistes qui ont besoin de moins longtemps et qui savent directement à l'avance ce qu'ils veulent faire. Mais l'idée, c'est vraiment que le lieu, il est à eux pendant 15 jours.
D'accord. Florence, tu avais peut-être une dernière question ?
Oui, dernière question. Donc, ça fonctionnera toujours sur ce principe-là, une résidence avant et puis une exposition qui dure en général combien de temps ?
Les expositions durent 2 mois à peu près. Cette expo-là dure tout l'été jusqu'au 28 août. Après, on va fermer pendant 15 jours, prendre des vacances. on essaye que la plupart de nos expositions soient le fruit d'une résidence. Ce n'est pas toujours le cas. L'exposition précédente, Street Dance, c'était une exposition de photos où la plupart des photos étaient là, étaient faites déjà. Par contre, on a reçu, donc les 3 photographes qui étaient exposés ont été là pendant quelques jours, se sont rencontrés, ils se connaissaient pas, il y avait une Allemande, une Américaine et un Français. On les a reçus tous les 3, ils se sont rencontrés, ils ont réfléchi ensemble comment ils voulaient présenter les photos, quelles photos ils allaient choisir. Donc ça va être un travail de résidence dans le sens où les photos existaient déjà, mais on voulait vraiment qu'ils se rencontrent déjà, qu'ils soient là tous les 3 et qu'ensemble ils choisissent un peu les photos qui allaient être exposées et comment elles allaient être mises en avant.
D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Si vous êtes intéressé par l'exposition, elle se tient donc jusqu'au 28 août à la Manufacture 111 dans le 20e arrondissement. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet avec le podcast de l'émission. Merci Margot. Et merci Antoine.
Merci à vous.
Bonne continuation à tous les deux et merci aussi à toi Florence pour toutes tes bonnes questions.
Merci à toi.
On se retrouve tout de suite après cette pause musicale. Thank you. C'était Nocturne de Ben Lucas Boysen sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Et on retrouve tout de suite Valentin pour sa chronique. Bonjour Valentin.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler des vacances, c'est ça ?
Exactement.
Donc les vacances d'août ne vont pas tarder à commencer et les listes des activités à faire et des personnes à voir se remplissent petit à petit. Entre les levées aux aurores pour profiter de la plage, les restaurants bio pour se mettre à neuf et la soirée barbecue, les vacances deviennent une forme de marathon. Valentin, cette envie de montrer qu'on a un instant à soi n'est pas contraire à l'esprit des vacances ?
Désormais, non. Le but des vacances n'est plus de faire le vide dans sa tête, mais de faire une démonstration de la richesse de notre vie sociale en dehors du travail. Et cela est devenu encore plus vrai depuis que nous publions nos photos de vacances sur les réseaux sociaux. Le bronzage est une illustration de cette évolution. Choquant au 19e siècle, car il évoquait un mode de vie paysan, il était devenu synonyme de super vacances au soleil. Maintenant, passer son temps à bronzer au soleil est démodé, car ce ne serait pas assez dynamique. Et pourtant, les heures de soleil à la plage est un bon moment pour se plonger dans nos pensées. Hier, l'émission « Ça va pas la tête » sur France Inter s'était faite autour de la question suivante « Comment philosopher à la plage ?». Dans cette émission, Alexandre Lacroix, le directeur de rédaction de Philosophie Magazine, disait que la plage est un lieu idéal pour la philosophie.
Pourtant, à la plage, on a tendance à se baigner ou à lire des romans, et avec le bruit qu'il y a autour, il est très délicat de pouvoir philosopher avec quiétude. Comment peut-on réussir cette prouesse ?
D'après Alexandre Lacroix, la plage nous dépayse et nous offre un nouveau rapport avec notre corps, avec les autres vacanciers et avec l'environnement. Ce serait aussi un lieu pour redécouvrir l'importance de nos cinq sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et surtout le toucher. Avec le sable chaud et l'eau de mer, on peut retrouver l'importance de ce dernier sens, bien qu'il soit considéré comme le moins spirituel des cinq. En effet, il réduit l'être humain à une chose matérielle. Donc, bronzer peut, en prenant des bains de soleil à la plage, peut être productif intellectuellement. Le philosophe Friedrich Nietzsche a passé toute sa vie à la quête du soleil et il avait la peau colorée, à l'inverse des autres philosophes universitaires allemands. Il a ainsi pu découvrir le plaisir de se fondre dans l'environnement.
Le bronzage est donc une chose agréable et productive. Mais n'est-ce pas le principe même des vacances ? Le but ne serait-il pas de profiter de ce temps pour faire tout ce qui nous fait plaisir ?
Alors c'est juste, mais il y a une différence, il y a une sacrée distance entre faire ce qui nous plaît et bouger tout le temps. Une journée où on se lève à 7h du matin pour aller à la plage, faire une randonnée ou une visite l'après-midi et enchaîner avec la soirée barbecue pendant une semaine, ce n'est pas ce qu'on appelle se reposer. Michel Lejoyeux, professeur de psychiatrie, encourage à ne pas faire des emplois du temps surchargés. N'ayez pas peur de vous ennuyer un peu car cela peut être productif pour votre capital intellectuel. Un pays où je ne m'ennuie pas un peu ne m'apporte rien, disait Albert Camus. En réalité, les vacances permettent de faire l'expérience du vide. Enfin, essayez de ne pas suivre de manière procédurière les activités de vacances. Visitez les monuments qui vous intéressent vraiment, vivez selon vos horaires et pas celles des autres, et tentez les petites expériences, car ce sont celles dont vous vous souviendrez le plus. On n'a plus qu'à vous dire bonnes vacances et profitez bien.
Radio Camping Paris. C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h sur le 93.9.
Eh bien, tout ça m'a bien envie de partir en vacances. Et d'ailleurs, tout de suite, on va retrouver Camille qui, elle, est bien partie et se retrouve à Nice. Camille, est-ce que tu m'entends ?
Je t'entends bien, Béatrix. Je t'entends tout à fait.
Alors, comment ça se passe en ce moment à Nice ? Je crois que le contexte est un petit peu particulier.
Je t'entends assez mal. Attends, je bouge un tout petit peu. À Nice, en ce moment, c'est l'heure de l'apéro, même si on est mardi. Il y a un petit peu de monde en terrasse en ce moment qui vient prendre un petit verre, un petit rosé, une petite bière. Donc voilà, il n'y a pas grand monde dans les rues. Ça reste beaucoup des touristes, assez peu de Niçois, mais il y a quand même encore un petit peu de vie dans la ville. Donc ça fait quand même ambiance de vacances.
Oui, j'imagine. Toi, tu es arrivée quand ?
Moi, je suis arrivée dimanche. Donc ça fait 2 jours que je suis là. Et l'ambiance n'est pas très très festive, on va pas se mentir. Il y a quand même très peu de Niçois qui sont dans les rues, qui se baladent. Il y a vraiment, on entend beaucoup d'accents différents, beaucoup de Russes, etc. Beaucoup de vacanciers qui sont là. Et des vacanciers qui vont toujours à la plage sur la promenade des Anglais, ce qui est assez étrange, qui donne un contraste assez spécial entre les personnes qui viennent se recueillir sur la promenade des Anglais, avec là où il y a tous les bouquets déposés, et les vacanciers qui sont sur la plage en train de se baigner. Donc c'est vrai que c'est assez spécial comme ambiance en ce moment.
D'accord. Toi-même, tu es passé faire un petit tour sur cette promenade qui maintenant est tristement célèbre.
Et ben, je suis passée il y a à peu près, environ une heure à peu près, voir donc les fleurs, les peluches, les petits mots qui ont été donc déplacés dans la nuit. Ils étaient disposés sur toute la promenade des Anglais qui était fermée à la circulation, et maintenant ils sont disposés juste au niveau du kiosque à musique en fait, qui est donc sur un tout petit espace de la promenade, vraiment dans le centre de Nice. Et voilà, donc je suis passée faire un tour, donc il y a un petit peu de monde qui vient, qui se recueille, et ça reste encore une fois très, très touriste. C'est assez particulier puisque les Niçois viennent plutôt très tôt le matin ou vraiment très tard le soir, voire dans la nuit.
D'accord. Et donc, si jamais on se trouve à Nice et qu'on a envie un petit peu d'être dans une dynamique de résilience, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu as prévu de faire, toi?
Bah moi du coup je vais passer un peu du coup ces vacances entre deux, un peu comme l'esprit de la ville, donc je suis passée un petit peu sur la promenade, mais après il y a beaucoup de choses à faire à Nice, mine de rien, où vraiment là pour le coup on peut aussi déconnecter un petit peu en sortant un peu de la ville et pour pas être tout à fait dans l'ambiance un petit peu sombre. Déjà il y a énormément de très très belles plages aux alentours de Nice. Bon, il y a Saint-Jean-Cap-Ferrat qui est connu aussi, voilà, il y a des très jolies plages où il n'y a pas du tout de touristes pour le coup, où on peut aller tranquillement se couper quelques heures de l'actualité un peu sombre et profiter de la Méditerranée qui, elle, est toujours aussi bleue, aussi belle. Il fait assez chaud ici, donc c'est quand même l'occasion de sortir un peu bronzé, de profiter. J'entendais la chronique juste avant sur comment profiter de ses vacances, comment profiter correctement de ses vacances, si j'ai bien compris. Donc voilà, il y a des choses à faire, il y a plein de choses à goûter. Oui,
oui, oui, je disais, c'est vrai que cette chronique nous donnait quelques pistes pour bien profiter de nos vacances.
Et du coup, quelques pistes pour en profiter à Nice, manger la soca qui est la spécialité locale, qui est une espèce de galette de farine de pois chiche qu'on mange à l'apéro ici, avec du rosé ou avec autre chose. Hein. Donc voilà, goûter la soca, il y a des excellentes glaces, des très bonnes spécialités locales à déguster. Puis après, la ville est très très belle en elle-même, donc beaucoup de petites balades à faire dans le centre, qui est très très coloré avec des façades ocre, des volets verts, donc tout ça contraste et c'est extrêmement joli. Après il y a des musées aussi à aller visiter, le musée Chagall, le MAMAC qui est le musée d'art contemporain, donc il y a beaucoup de choses à faire à Nice encore aujourd'hui aussi pour déconnecter, donc voilà, ça reste une ville de destination de vacances qui n'a pas perdu cet attrait-là, on va dire ça comme ça.
D'accord, bah écoute, merci beaucoup Camille pour ton témoignage et profite bien, excellentes vacances à toi.
Merci beaucoup. Et puis donc le bonjour à toute l'équipe de campus qui est encore à Paris. Profitez bien des températures.
Ah oui, il fait très chaud aussi aujourd'hui à Paris, mais le problème c'est qu'on n'a pas la mer. Donc c'est un peu plus pénible.
Ici, c'est beaucoup moins chaud. Ici, c'est beaucoup moins chaud. Il fait 25 degrés. Donc parisiens, venez prendre l'air frais de la Côte d'Azur.
Ouais, j'imagine qu'il y aura aussi moins de pollution. Bon, bah écoute, merci beaucoup et on se revoit quand tu rentres à Paris ou si je descends à Nice.
La semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Et d'ici là, de très belles émissions, de très belles radio camping.
Merci beaucoup. Vous écoutiez Clock de Plaid sur Radio Campus Paris 93.9. Et tout de suite, on va passer à la fiction de Maxime et la célèbre hôpital de Breitrech, je prononce bien. Bonjour, on vient pour votre piqûre.
Ah oui, bien sûr, rentrez.
On peut savoir pourquoi tu as passé plus d'une demi-heure dans la salle de repos avec le professeur Brousseau ?
Pardon ?
C'est pas à vous que je parle.
Ce que je fais avec le professeur Brousseau ne te regarde absolument pas.
Oh, je t'en prie, tout le monde sait que tu passes du temps avec lui pour prendre le poste d'infirmière en chef. Le bras.
Quoi ?
Non, c'est à vous que je parle.
Ah oui, pardon, voilà.
Le professeur Brousseau veut me parler parce qu'il me trouve compétente pour le poste.
Mais ne sois pas naïve, ma pauvre fille, il en veut à ton cul, c'est évident.
Ah bon ?
De quoi je me mêle, vous ?
Tu dis ça parce que tu es jalouse parce que je suis compétente et que toi tu es nulle.
C'est faux, et puis donne-moi cette seringue.
Calmez-vous, s'il vous plaît.
Tiens, la voilà. Vois les choses en face, tu n'as aucune chance et c'est pour les raisons professionnelles que le professeur Brousseau me convoque régulièrement.
Ah oui !
Aïe !
Et merde, je me suis trompée. Il est obligé de te convoquer un samedi soir dans son jacuzzi pendant que sa femme est chez sa mère.
J'ai mal !
C'est un jacuzzi de travail, il y a même une table de réunion au milieu.
J'ai mal !
La ferme, respirer. Table sur laquelle tu t'es certainement fait prendre.
Ce que tu peux être vulgaire.
Je suis réaliste.
Mais aïe !
Et voilà, je me suis encore trompée.
J'ai mal !
Je vais chercher une autre seringue.
Ne couche pas avec le professeur Brousseau au passage.
J'ai mal.
La ferme et arrêtez de saigner.
On se quitte donc avec cette très belle histoire que Maxime nous vient de nous proposer. Il nous reste encore un petit peu de temps. Maxime, est-ce que tu veux témoigner en tant qu'artiste et nous expliquer un petit peu ta... Oui, tu m'as craché dessus.
Pardon,
nous expliquer un petit peu ta démarche.
Oui, bah non, mais comme chaque année, à Radio Camping, il y a une fiction. Et il est intéressant de faire une fiction en direct avec les personnes qui sont présentes autour de la table. Alors bon, les personnes de Radio Campus, hein, pour ne pas intimider trop les invités non plus, même que des fois on peut les faire participer, mais bon, on ne veut pas non plus les mettre...
Les traumatiser,
les mettre dans des situations embarrassantes. Mais voilà, donc cette année, l'hôpital Breitrech raconte l'histoire d'un hôpital, avec le quotidien d'un hôpital, aussi bien à l'accueil, comme on a pu l'entendre, que dans des salles d'opération, que dans des chambres de malades, que dans des couloirs, etc., etc. Il y a encore donc des épisodes jusqu'à la fin du mois de juillet, jusqu'à l'arrêt de Radio Camping, puis on reprendra donc début septembre, pour tout le mois de septembre, c'est-à-dire pour toute la grille d'été.
Valentin. D'où vient cette idée en fait ?
Alors, parce que généralement l'hôpital est une source assez riche en termes de situations absurdes et en termes
d'anecdotes.
D'anecdotes et puis de situations épisodiques à mettre en place pour pouvoir, voilà, et puis tous les personnages un peu fous qu'il peut y avoir, toutes les situations, voilà, on a souvenir de toutes ces séries et de toutes ces soap-opéras qui se passent dans des hôpitaux.
Comme Dr. House, par exemple, parmi les
séries.
Par exemple, ou la clinique de la Forêt Noire, ou l'urgence. Voilà, par exemple, déjà, on dit hôpitaux, et puis il y a déjà plusieurs séries qui viennent à l'esprit. Enfin voilà, c'était ça, et puis donc un nouvel épisode demain.
Eh bien, écoute, merci beaucoup de toutes ces très belles explications. On comprend beaucoup mieux maintenant tout le message philosophique qu'il y a derrière. Tout de suite, c'est Requiem pour un Twister, tous les mardis de l'été à 20h, un tour du monde de la pop underground en 58 minutes. Merci d'avoir écouté Radio Camping Paris. On se retrouve demain. Passez une excellente soirée sur 93.9.